pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Nova Saran, et soyons unis.
Nova Saran.
Pourquoi la loutre est devenue votre animal fétiche et l'animal fétiche de votre combat ?
On a plein d'animaux fétiches dans notre lutte. L'outarde, elle nous raconte aussi une histoire. C'est parce que c'est une des espèces emblématiques du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin est une des dernières zones en France où la loutre s'est maintenue. Et c'est ce bassin-là qui est menacé par les méga-bassines. C'est autour du Marais Poitevin que toutes les premières bassines se sont mises en place.
Et puis il y a un petit côté bouc émissaire, non, pour la loutre aussi.
Ouais, certainement que le fait que ce soit une espèce qui a été largement réprimée, d'une grande rareté, d'une grande fragilité, moi ça me touche. Après... La loutre, c'est peut-être la plus grande éco-terroriste de nous tous. Hein. Je l'ai vu porter un cutter et s'en prendre à des bassines. Je l'ai vu porter un drapeau palestinien. Je l'ai vu en Allemagne sur des affiches qui annonçaient la tournée des affreux soulèvements de la terre et de bassines non merci auprès des camarades allemands.
C'est hyper dangereux, en fait.
Si vous ne vous rendez même pas compte.
La loutre, emblème éco-terroriste, selon Julien Leguet, de Bassine non merci. Les éco-terroristes. Nébuleuse d'extrême gauche ultra-radicalement végétarienne qui cherche à détruire le système capitaliste et donc à semer le chaos dans la société. Les éco-terroristes veulent empêcher les agriculteurs de nourrir le monde, nous interdire de manger des hamburgers, tout ça pour défendre des bestioles qui ne servent à rien. Les éco-terroristes n'aiment pas l'agriculture moderne ni le progrès d'une manière générale. Ces talibans rouge-vert veulent instaurer une dictature qui nous obligerait à devenir végétariens, à ne manger que des lentilles et pois chiches bio issus du commerce équitable, à faire du vélo, même pas électrique, à nous chauffer à la bougie. Les amish de nos amish ne sont pas nos amish. Et tout le monde sait que Hitler était végétarien. Pour arriver à leur fin, les éco-terroristes sont prêts à égorger des méga-bassines avec des cutters ou à manger des policiers tout crus, même si c'est en contradiction avec leur régime vegan obligatoire. Mais ces barbares obscurantistes n'en sont pas à une contradiction près. Nous allons aujourd'hui le prouver en suivant le chef éco-terroriste Julien Leguet dans une opération de sabotage d'une crotte de loutre. Or, avec ses crottes, la loutre marque son territoire. Voilà donc un éco-terroriste qui, tout en prétendant la protéger, embête une loutre en sabotant sa crotte. Salut les amis, c'est JBD pour La Voix Off, juillet 2024, Saint-Martin-les-Mels, Poitou. Nous nous sommes immergés dans les profondeurs radicales du village de l'eau, camp de formation porté par les syndicats gauchistes Sud Solidaire, Confédération Paysanne et par les éco-terroristes de Bassine Non Merci et des Soulèvements de la Terre, avec toute une galaxie de groupuscules interlopes d'ultra-gauche assoiffés de violence et de jus de pomme issus de l'agriculture biologique. Pendant 6 jours, sur ce camp d'entraînement de cette sorte de djihad vert, des milliers d'extrémistes du village de l'eau ont subi propagande et endoctrinement déguisés en dizaines de conférences, exposés, rencontres, projections, débats. Des personnes masquées et apparemment très calées en droit ont par exemple assuré des formations sur la garde à vue ou sur les armes de la police, ce qui prouve bien leurs mauvaises intentions. Dans un pré de la vallée de l'Argentière, des gens se sont aussi formés à la cohésion et protection en manifestation, en apprenant notamment un langage de signes pour communiquer et bouger ensemble, potentiellement face aux forces de l'ordre. Pour donner un air de gentils écolos à ces activités subversives, un groupe de naturalistes, les naturalistes des terres, organisait tous les matins des balades pour découvrir la faune et la flore de la vallée, comme la balade qui vous attend aujourd'hui. Mais ne vous méprenez pas, cette propagande verte a pour but d'insidieusement convertir à l'écoterrorisme. Pour notre sécurité, nous n'avons pas pu enregistrer ces entraînements subversifs délivrés par ces paranoïaques masqués. Mais nous avons par contre réussi à infiltrer un groupe de militants auquel l'éco-terroriste Julien Leguet avait donné rendez-vous de bon matin dans la vallée de l'Argentière. Alors, trigger warning, attention, pour supporter la violence qui vous attend avec cette opération de sabotage de crotte de loutre, nous vous suggérons d'écouter ce reportage allongé, au calme, car le chant des oiseaux et les bruits d'une rivière, ça peut en fait être très violent.
Ben bonjour à toutes, à tous. Merci d'être aussi matinaux. Bon, merci aussi d'être aussi matinal, de voir c'est dur. Merci d'avoir répondu à cette invitation de partir sur la piste de la loutre. J'adore cette bestiole. C'est peut-être mon animal totem ou celui que j'essaye de chercher partout où je vais. Et puis, résident sur Mel et cherchant un lieu pour vous, nous accueillir. La vallée de l'Argentière a vite été une option. Tout l'espace qui nous reçoit pendant ces 6 jours appartient à la commune. C'est le cas du terrain de foot, c'est le cas des salles des fêtes qui sont là-haut, c'est le cas de la ferme de la Génellerie, qui est vraiment le joyau de cet endroit d'où on a préparé toute la mobilisation depuis 2 mois maintenant. Ça comprend également le grand espace de champ de foire qui est l'atelier communal. Ça comprend également tout le fond de la vallée de l'Argentière jusqu'à une zone où on va aller, qui est en zone de réserve biologique communale, qui est une démarche volontaire de la part de la commune. Ce n'est pas l'État qui a imposé, c'est la commune qui a dit là on considère qu'il y a matière à préserver et on va se lancer là-dedans, et on va se mettre nous-mêmes nos contraintes. Et donc on a ici un ensemble de 10 hectares avec cette vallée de l'Argentière, cette Argentière qui traverse. Et puis surtout un très très gros enjeu eau potable. On est sur une zone de captage d'eau potable d'une source qui s'appelle la Chancelée, qui se situe à 3 km d'ici en aval du campement. Et ce captage de la Chancelée alimente en eau les 5000 habitants de Mel. C'est un des éléments très forts qui a fait qu'on a demandé à la mairie de Mel si on pouvait s'installer là. C'est qu'ici, on considère que c'est vraiment le cas typique du petit bassin versant, qui, si on est capable de mettre en œuvre des politiques agricoles, des modalités de gestion du milieu qui soient favorables à l'eau potable, c'est-à-dire sans pesticides, sans nitrates, etc., on peut, même en s'affranchissant de toutes les contraintes internationales, de tout ce qui nous dépasse, de l'agro-industrie, on peut, à l'échelle d'un petit territoire, sauvegarder l'eau. Comme c'est déjà une zone qui, depuis des décennies, a quelques particularités, on n'a pas le droit, par exemple, d'épandre sur le zone de captage rapproché. Ce n'est pas des cahiers des charges de foufou, c'est souvent insuffisant comme modalité de protection, mais le petit bout de protection qu'il y a peut quand même avoir un effet biodiversité. Donc voilà un petit peu comment on choisit le lieu. Et tout de suite, on a imaginé de se dire, c'est magnifique, c'est certainement très riche, mais il faut qu'on inventorie, il faut qu'on sache ce qui vit là pour le prendre au maximum en compte dans la manière dont on va vivre ici pendant ces 6 jours. Et la première balade de repérage que j'ai fait avec ma compagne le long de l'Argentière, moi, dès que je suis au bord d'une rivière, je veux savoir si la loutre est là. Et j'aspire à ce que, à la fin de cette balade, vous puissiez aussi mener ce genre d'enquête, que vous ayez les éléments de reconnaissance, de recherche d'indices de présence et d'identification, pour que vous puissiez partir en vadrouille n'importe où dans le monde où il y a des loutres. Il y a une vingtaine d'espèces de loutres dans le monde, mais qui ont toujours les mêmes caractéristiques pour ce qui est des indices de présence. Et en fait, ça n'a pas manqué. Première balade, premier pérage, épreinte de loutres. Ce sont les crottes que les loutres vont déposer pour marquer leur territoire. C'est pas tant pour faire la grosse commission que pour lancer des SMS à ses camarades, sachant qu'en parallèle de ça, la loutre, c'est des bestioles qui ne vivent pas en groupe et qui vont, pour communiquer entre elles, pour se délimiter des territoires, pour éventuellement témoigner qu'elles seraient éventuellement réceptives à quelque accouplement, ben tout ça passe par la crotte, tout ça passe par des sécrétions qu'elles laissent sur des endroits que vous allez apprendre à découvrir et à trouver. S'il y a de la crotte, c'est qu'il y a de la loutre. Donc on a poussé l'investigation un peu plus loin. On a acheté avec BNM, on a créé une petite cellule qui gère le stand qui est là, qui s'appelle Naturaliste en Mélois. On a acheté des caméras, parce que la loutre, c'est un animal qui est très très dur à voir. J'ai passé des heures et des heures à l'affût, etc. J'ai jamais réussi à la voir en affût. Mais en tout cas, je vis sur des territoires où la loutre est omniprésente, à savoir le marais Poitevin à la base, et jamais, jamais, jamais vu. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la loutre est si dure à observer? Pour commencer, elle est nocturne. J'aurais envie de préciser, elle l'est certainement devenue. D'après certains scientifiques, la loutre avait plutôt un comportement beaucoup plus diurne. C'est le harcèlement dont notre espèce a été responsable vis-à-vis de cette espèce qui peut expliquer une modification comportementale. En fait, elle change de niche écologique, elle déporte son activité pour avoir un minimum de temps à notre contact. Ce qu'il fait croire ou confirmer, c'est que sur certaines zones où les populations sont en train d'augmenter, comme le marais Poitevin, ben, y a des jeunes qui sont en train de décaler, pour ne pas être en concurrence avec des adultes bien installés, qui décalent leur activité le jour pour exploiter le milieu. Et puis des endroits où la loutre n'a pas forcément fait l'objet de harcèlement, de destruction, de braconnage, notamment je pense à certaines zones en Espagne, ben, la loutre en fait est restée diurne. La loutre elle est protégée depuis 79. Avant 79, en France, il y a plein de gens qui tuent la loutre. On la condamne d'être responsable du désempoisonnement. C'est certainement pas les pesticides, c'est certainement pas les engrais, c'est certainement la loutre et les hérons, c'est évident. Donc quand on arrête de harceler la loutre, elle est capable de changer son comportement. C'est très mobile, une loutre. C'est très nomade. Ça peut utiliser en aire de repos pour la journée, pour le coup, tout un tas d'habitats différents et en fonction de la tranquillité du milieu. Par exemple, un endroit où il n'y a pas grand monde, juste des vaches, elle va pouvoir passer l'après-midi au soleil, dans des hautes herbes, ça la protège. Une zone comme ici, où potentiellement il y a de la fréquentation, même quand il n'y a pas le village de l'eau, parce que c'est communal, les gens promènent leurs chiens, etc. Elle va à minima chercher des fourrés impénétrables. Vous verrez la vallée de l'Argentière, c'est du ronce de chaque côté, il y a une petite ripisylve, une forêt de rive. Et avec la mairie, on est bien OK que les fondamentales de la préserver pour la tranquillité de la loutre, pour limiter l'évaporation, le fait que l'eau se réchauffe, etc. Pour les gens qui dorment sur le camping, vous aurez peut-être su qu'on a demandé à ce que vous soyez à 5 mètres au moins de la berge. On a aussi demandé à ce qu'il n'y ait aucun chien sur le village de l'eau pour éviter que des meutes du chien qui erre, qui se balade, ne puissent venir dénicher les bestioles et ça a été très respecté. Merci à tous et à toutes, notamment ceux qui ont des camarades canins, d'avoir réussi à trouver l'alternative. Quoi. Un roncier, ça peut être vraiment un très bon habitat de protection. Les habitats vraiment qui ont une fonction très particulière, c'est les habitats de reproduction, ce qu'on appelle des catiches. En vieux français, se catir, c'est se blottir, se cacher. Et des catiches, très souvent, ce sont des terriers que les loutres sont soit capables de creuser elles-mêmes, soit de réexploiter d'autres espèces comme le ragondin. Là, la catiche, c'est vraiment un habitat en lequel l'élevage des jeunes, l'allaitement des premiers mois se fait. Les loutrons vont rester dans la catiche jusqu'à 2 mois. Donc autant je disais tout à l'heure, la loutre, elle est nomade. Quand c'est la période de naissance des petits, là, elle va se reconcentrer sur le territoire. Tout à l'heure, je vous parlais des caméras qu'on a achetées. Il y a toute une question qu'on a voulu se poser et qui aurait peut-être pu remettre en cause, même certainement remis en cause le fait qu'on s'installe ici, c'est s'il y avait eu des loutrons. Si à la caméra, on avait vu la présence de jeunes, si dans les crottes, dans les épreintes, j'avais trouvé des épreintes de loutrons qui sont un peu différentes de celles des adultes, je pense qu'on aurait vraiment reconsidéré ou peut-être tout serait passé là-haut ou on aurait pris ça en considération. Quoi. Et donc, je vous disais, on a acheté des caméras et puis en fait, ça n'a pas manqué. 3 jours après, première image de loutre, deuxième jour, elle a apparu 5 fois sur la période de suivi, sur les 2 semaines où on a posé la caméra. Donc, elle fréquente assidûment le site. Les sites où elle s'abrite, ça peut être de la prairie, des ronciers, des terriers, et de temps en temps des arbres creux qu'on appelle des arbres têtards, parce qu'on leur coupe la trogne, et qui vont constituer des systèmes de galeries et d'abris suffisants, notamment en période de crue, Moi qui habite dans le marais Poitevin, des fois il y a de l'eau sur toutes les parcelles. Ben, qu'une loutre aille se jouquer sur une tête de têtard, en termes de patois, se jouquer, hein, c'est comme se catir, c'est tout à fait possible, quoi. Et sur les aspects de la discrétion, elle a une bonne ouïe mais équivalente à la nôtre, elle a un très très bon odorat. De génération en génération, elle se passe quand même le mot que l'homme c'est quand même le prédateur du coin. Dès qu'il y a une odeur d'humain, moi je sais que je clope, ça c'est radical. C'est des éléments qui vont faire qu'elle va se catir, se carapater, voilà, pas attendre qu'on vienne faire la photo, quoi. Il y a d'autres raisons qui font sa discrétion, sa difficulté à l'observer. Alors c'est vrai que c'est un animal qui se fond dans le paysage, plutôt dans les marrons, etc. Ouais. Et en taille et en couleur, une confusion possible avec le ragondin. C'est à la queue qu'on va déterminer à coup sûr. Le ragondin, c'est un gros corps avec une queue de rat tout de suite très fine. La loutre, c'est très fuselé. Et la démarcation entre l'arrière du bassin et la queue, c'est vraiment très progressif. Ça, c'est l'élément le plus sûr. Après, on ne voit pas toujours la queue, mais ça, c'est vraiment un très bon critère.
Un individu ou plusieurs?
À chaque fois, c'était un individu. Si c'est deux individus différents, c'est qu'ils sont de sexes différents. Un mâle ne va pas supporter un autre mâle. Les marquages servent à ça, un petit peu ritualiser les zones de contact. Également, une femelle ne va pas supporter une autre femelle. Quand les jeunes sont à maturité sexuelle, c'est les parents qui les chassent du territoire. C'est aussi grâce à ce phénomène-là, ce qu'on appelle l'ératisme, le fait d'errer après l'adolescence, quoi, qui fonde les loutres, une espèce un peu pionnière, qui a failli disparaître de toute la France à la fin des années 70. Il ne reste plus de loutres que dans les marais de l'ouest de la France, dans le massif central, alors qu'en 1900, il y en avait partout, même à Paris. Il y avait des castors et des loutres dans à peu près toutes les rivières de France. Le castor a commencé à se faire très sérieusement désinguer au Moyen-Âge et au XVIIe siècle, il ne reste plus grand-chose. La loutre, elle était encore très représentée au début du XXe. La question était, est-ce qu'on la chassait pour sa fourrure ou parce qu'on la considérait comme nuisible ou les deux? Une fourrure de loutre, c'est certainement une des fourrures de la plus grande qualité qui existe. Il y a une densité de poils, 50 000 poils au centimètre carré. Oh. J'ai jamais compté, hein. J'ai cru sur parole ce qu'il l'avait dit. Du territoire d'où je viens, la peau de loutre, elle a une valeur marchande importante. J'ai lu des témoignages comme quoi, avec deux peaux de loutre, on avait l'équivalent d'un salaire agricole moyen, quoi. Donc c'est ce qui faisait que le braconnage était une activité annexe, et certains s'étaient spécialisés là-dedans. Et puis également, on a accusé la loutre d'être capable de manger son poids de poisson en une journée. C'est absolument faux, hein. Une loutre, ça pèse entre 5 et 10 kilos. Et une femelle allaitante qui a deux loutrons et qui est vraiment au taquet, elle va peut-être manger 1 kilo de poisson. Mais c'est exceptionnel, et sinon la ration, c'est quelques centaines de grammes quotidien, quoi. La loutre, elle est de la famille des mustélidés, donc c'est la famille des fouines, des belettes, des martres, des prédateurs qui ont plutôt le comportement de prospecter, de fouiner, de chercher. D'ailleurs, il y a des camarades qui ont entendu la loutre depuis le début, qui campent au bord de l'eau. C'est pas une bestiole qui attend que ça passe devant elle, tout l'inverse de l'affût. Au contraire, elle va être très curieuse. En fait, ce qui fait que la loutre aussi est très difficile à observer, c'est qu'elle a de très grands territoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très mobile. Pour une loutre, sur ce genre de situation, de petite rivière, faut compter une vingtaine de kilomètres de rivière pour le territoire d'un mâle. Donc, faut tomber dessus, c'est voilà, vous mettez tout bout à bout, nocturne, affûté. Elle aime pas trop notre présence, mine de rien. Et dans le marais Poitevin, où je connais beaucoup mieux le statut de la loutre, où là, c'est pas comparable, c'est pas une rivière et c'est plein de canaux dans tous les sens. Il faut compter autour de 1000 à 1500 hectares pour un territoire de loutre mâle et à peu près la moitié pour une femelle. La taille du territoire, elle va quand même être fonction de la qualité du milieu et de sa capacité à alimenter une loutre. Moins il y a de ressources alimentaires, plus le territoire doit être étendu. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est que dans le marais où il y avait un chasseur de loutre, il était capable, sur un village, de tuer entre 5 et 10 loutres, et le territoire, il fait à peu près 2000 hectares. Et c'est ce qui tuait. Donc je pense qu'il y avait des territoires qui étaient peut-être 5 fois plus petits, tellement il y avait de densité de nourriture. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé de nourriture.
Elle mange des poissons.
Elle mange des poissons, absolument, mais pas que.
Les crustacés,
des écrevisses, des crustacés en général, absolument, mais pas que.
Des
mollusques,
des crapauds,
des grenouilles, des œufs.
Des moustiques.
C'est un peu petit, mais du gros insecte, de la grosse larve de libellule ou ce genre de choses, il y a de la calorie, pas de problème. Hein. L'entomophagie, ça lui va bien aussi. Quoi d'autre ? Des petits rongeurs. Elle est carnivore et pas compliquée. Et même, on parle plutôt d'un prédateur dit opportuniste. C'est pas une bestiole qui va se spécialiser et dont la survie va être très très conditionnée à une ressource alimentaire. C'est au contraire une bestiole qui va être capable d'une certaine flexibilité dans son régime alimentaire. Et finalement, puisqu'elle a cette flexibilité, l'analyse des empreintes, ben c'est des informations hyper précieuses. Ça va permettre de se faire une idée de la ressource alimentaire. C'est une espèce d'échantillonnage. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, hein, de chercher des crottes de loutre et de les analyser pour déterminer ses régimes alimentaires. J'aurais rêvé de faire ce métier. Par exemple, dans le Marais, c'est ce qui a mis en évidence une vraie bascule dans le peuplement piscicole, puisque dans les années 80, il y a eu ces travaux d'analyse des crottes et qui révélaient qu'entre, selon la période, entre 50 et 80% des proies étaient de l'anguille. Et aujourd'hui, quand on fait des collectes d'épreintes, notamment en été, on a des crottes qui sont quasiment exclusivement oranges, parce qu'il y a la population d'écrevisses de Louisiane qui a explosé depuis 2005, maintenant, dans le marais Poitevin. En été, c'est le gros de sa source alimentaire.
Pourquoi la loutre est devenue votre animal fétiche et l'animal fétiche de votre combat ?
On a plein d'animaux fétiches dans notre lutte. Loutarde, elle nous raconte aussi une histoire.
Là, l'anguille.
Je pense que c'est parce que c'est une des espèces emblématiques du marais Poitevin. Le marais Poitevin est une des dernières zones en France où la loutre s'est maintenue. Et c'est ce bassin-là qui est menacé par les méga-bassines. C'est autour du marais Poitevin que toutes les premières bassines se sont mises en place.
Et puis il y a un petit côté bouc émissaire, non, pour la loutre aussi.
Ouais, certainement que le fait que ce soit une espèce qui a été largement réprimée, d'une grande rareté, d'une grande fragilité. Moi, ça me touche. Après, la loutre a été déclinée sous toutes les formes. Hein. C'est peut-être la plus grande écoterroriste de nous tous. Hein. Je l'ai vu porter un cutter et s'en prendre à des bassines. Je l'ai vu porter un drapeau palestinien. Je l'ai vu en Allemagne sur des affiches qui annonçaient la tournée des affreux soulèvements de la terre et de bassines non merci auprès des camarades allemands. Bah en tout cas,
c'est hyper dangereux en fait.
Si vous vous rendez même pas compte. Gérald non plus. Hein.
Quand le perfide Leguet se moque d'un Gérald, il s'agit bien sûr du vaillant Gérald Darmanin, génial promoteur du concept d'écoterrorisme, ex-sinistre ministre de l'Intérieur, passé à l'injustice et demain peut-être pestilent de la République. Notez au passage la fourberie crypto-raciste de l'écolo-slamogauchiste, raciste, car Leguet n'ignore pas que Gérald s'appelle aussi Moussa.
Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup.
Je suis beaucoup d'actes racistes ou de mots racistes contre moi. Je le subis, c'est très désagréable. Je constate qu'il y a un racisme latent dans la société qui touche tout le monde, qui peut toucher les blancs, les arabes, les noirs.
Eh ouais, c'est raciste de se moquer de Moussa Darmanin, qui est membre d'une minorité stigmatisée. Et si Moussa Darmanenstein avait été juif, les éco-terroristes auraient été antisémites. Comme par hasard.
Faites place au progrès, mon projet bétonneur va faire votre bonheur à l'insu de votre plein gré. Ministre du maïs, j'ai une grande idée, pour bien vous l'expliquer, je vous envoie la police. Oh, Darmanin de jardin, avec sa petite binette. Oh, Darmanin de jardin. avec ses pédagogues et quelques gros bulldogs. Toute la gendarmerie quadrille le pays. Comme on trouve pas ça chouette, on nous éclate la tête, on nous crève quelques yeux pour que l'on y voie mieux. Oh, Darmanin, le jardin avec sa petite binette. Darmanin, le jardin qui fait pousser des gourdins. Darmanin, le jardin avec sa petite binette. Darmanin, le jardin qui fait pousser des gourdins. Tous les envahisseurs ont leur ronde serviette. Chez madame la préfète, elle est vraiment parfaite. Ils ne veulent plus de squat, interdisent les ZAD, assourdissent les watts, ils veulent qu'on reste quat. Oh, Darmanin de jardin, avec sa petite lunette. Darmanin de jardin, il fait pousser des gourdins. Darmanin de jardin, avec sa petite lunette. Darmanin de jardin, il fait pousser des gourdins.
Darmanin de jardin, c'est pas ok de se moquer des personnes de petite taille. Bestial hymne éco-terroriste signé Nos Confitures, avant de reprendre notre méphitique plongée dans l'enfer vert de cette opération sabotage de crotte de loutre. On retrouve le gourou le gay en train d'endoctriner un groupe de futures victimes de la secte des adorateurs de la loutre. Mais pourquoi diable un culte de cet animal ?
Je pense que la rareté et la quête, c'est un peu mon graal, le côté un peu fantomatique, le fait d'être un spectre, elle est là, on la voit jamais, j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule des fois. Hein. La dernière en date, on laisse la caméra pendant une semaine, je suis sûr d'avoir trouvé une catiche, il y a tous les signes, on trouve le cadavre d'une jeune canne, elle est là, c'est sûr, et même ça sent la loutre, tellement elle est présente à cet endroit-là. Et puis on va chercher la caméra, on regarde les fichiers, il n'y a rien. On repasse 2 heures après, il y a une empreinte toute fraîche. Je crois aussi que sa relative fragilité, le fait qu'elle soit passée au bord de l'extinction, le fait également qu'elle a été longtemps considérée, ça se rediscute, comme une espèce bio-indicatrice de la qualité du milieu. Alors c'est vrai pour certaines molécules et c'est faux sur d'autres aspects. La loutre étant un grand prédateur, elle est tout en haut de la chaîne alimentaire et elle va avoir tendance à concentrer toutes les molécules que dans la chaîne alimentaire on n'arrive pas à dégrader. Donc c'est ce qu'on appelle la concentration biologique qui fait que dans une eau où il y aurait très peu de plomb, une moule va la filtrer, va concentrer ce plomb pour ne pas en souffrir. Elle va stocker ces métaux lourds dans des gangues de graisse que la loutre va manger et comme ça, de repas en repas, on peut avoir des molécules très diluées qui peuvent se retrouver à des taux jusqu'à létaux ou qui déclenchent des tumeurs, des choses comme ça. Donc pour ce qui est des métaux lourds et des éléments non dégradables, c'est une espèce indicatrice. Par contre, sur le nitrate, sur le fait que l'eau soit polluée avec des engrais, etc., c'est pas une très bonne indicatrice. La preuve en est, elle vit dans le marais qui est quand même très très pollué. Et c'est parce qu'il y a de la ressource alimentaire qu'elle arrive à se maintenir.
Tu parlais des anguilles, tu peux nous dire, j'imagine qu'il n'y en a plus beaucoup non plus, et je voulais savoir quelle relation aussi tu entretiens ou les loutres entretiennent avec le ragondin.
Je n'entretiens pas de relation avec le ragondin. C'est des animaux qui cohabitent plutôt bien. De la même manière que castor et loutre cohabitent plutôt bien, que les castors reviennent, la loutre elle est présente. C'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas du tout de compétition alimentaire. Les ragondins sont végétariens. Il peut éventuellement y avoir de la compétition sur le terrier, mais ce que moi je capte plutôt, c'est que la loutre elle va venir squatter les terriers quand il y a eu des grosses opérations de déragonisation, d'éradication des ragondins où là il y a du gîte. Donc moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, bon, puisque tu me poses la question de ma relation au ragondin, elle est évolutive. J'ai bien enregistré, quand j'étais ado dans le Marais, batelier, le discours des habitants du territoire qui disaient « Oh, bah, on n'est pas de chez nous, on n'en avait pas avant, on défonce les berges, on bouffe tout. » En effet, le ragondin est arrivé dans le Marais en 1950. C'est une espèce qui vient d'Amérique centrale et qui est arrivée en Europe. Elle n'a pas traversé l'Atlantique à la nage. Hein. On l'a emmené notamment pour de l'élevage, pour la fourrure. Et à partir de là, des individus se sont retrouvés dans la nature, ont été lâchés et se sont acclimatés. Et n'ayant pas de prédateur naturel du ragondin dans le Marais Poitevin, et ayant, au contraire de la loutre, un taux de fertilité incroyable, jusqu'à 4-5 portées en 2 ans, de petits qui se reproduisent potentiellement au bout de 4 mois, et qui en plus, plus tu es dans l'éradication, et plus l'espèce en réponse sélectionne des individus fertiles et précoces. La belle affaire. Ça devrait nous faire réfléchir. De manière générale, c'est cette considération aux espèces invasives. Et en effet, c'est des espèces qui peuvent perturber les milieux. Et très souvent, il ne faut pas oublier que les espèces comme ça qui vont arriver d'un continent à l'autre, très souvent, c'est le commerce international qui en est responsable. Mais il y a un truc du « on n'est pas de chez nous » et puis ça va tout ravager. Alors déjà, il y a une grande partie des espèces comme ça exotiques qui, quand elles arrivent sur un site, ben, en fait, elles ne s'adaptent pas. Il n'y a pas de repos pour mille raisons, la chaleur, ceci, cela, quoi. Par contre, sur celles qui arrivent à s'acclimater, c'est vrai qu'on peut avoir des phénomènes, en tout cas en début de colonisation, de sentiments d'invasion. L'écrevisse de Louisiane, quand elle est arrivée, la première phase, c'est « paf !» Et c'est des pêcheurs qui disent « Oh, la rivière est rouge !» Et en effet, des fois, tu arrives sur des fossés qui sont en phase de colonisation et tu as quantité de bestioles. Le Marais Poitevin, donc il a connu le ragondin, il a connu aussi la jussie, qui est une plante aquatique d'eau douce, qui vient d'Uruguay et du Brésil, commercialisée par Jardiland. Quand elle arrive dans un plan d'eau et qu'il n'y a pas d'eau de végétation, elle colonise très très vite et elle peut combler le plan d'eau à force de matière et d'envasement. Et elle a été vendue juste pour de l'ornemental et elle a un pouvoir de bouturage incroyable. Dans une zone comme dans le Marais, où finalement aujourd'hui, à cause des pesticides notamment, tu n'as pratiquement plus d'herbier, et que comme tu n'as plus d'herbier, tu n'as pratiquement plus d'insectes aquatiques ni de poissons qui se nourrissent de végétal. Quand il y a un bout de jussie, tu as un petit peu de libellule qui arrive à pondre ses œufs, qui arrive à faire sa repro. Ah là, tu commences à te dire, hein, c'est peut-être pas si évident. Peut-être que le comportement le plus écolo qui soit, c'est peut-être pas forcément de la retirer systématiquement. En disant ça, je scandaliserais des centaines de personnes dans le Marais dont c'est le métier de la retirer, hein. Mais en tout cas, le constat, quand même, c'est que, en fait, ces espèces invasives, on en vient rarement à bout, même jamais à bout, par des stratégies de ramassage, d'éradication, etc. Et au contraire, ce qui est en train de devenir la situation de l'écrevisse de Louisiane dans le Marais, au bout de 20 ans maintenant, doit nous faire un peu réfléchir. Aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilisation de la population. Parce qu'en fait, la première année, la loutre, elle ne savait pas pêcher de l'écrevisse de Louisiane. Elle est deux fois plus grosse que les nôtres. Elle a des pinces, ça vous coupe un doigt quasiment. Il a fallu qu'elle capte pas mal de choses dans son comportement. Que par exemple, l'écrevisse de Louisiane, elle vit dans des terriers. Elle creuse des galeries jusqu'à 4 mètres de profondeur, elle ponce les œufs au fond, et la femelle, elle est devant, elle attend comme ça. C'est peut-être pas en allant la chercher à l'entrée de son terrier qu'elle est la plus facile à attraper. De la même manière, alors ça c'est pas forcément pour la loutre, parce qu'elle a quand même des bonnes dents, mais au bout de 5 ans, les poissons prédateurs, comme les black bass, les brochets, les perches, ont commencé à en manger. Mais en fait, ils ont commencé à en manger quand ils ont capté que l'écrevisse, elle muait. Et que lors de sa mue, il y avait un moment, du coup, elle était toute molle, et dans son comportement, et dans sa carapace. Il a fallu le temps pour que les prédateurs locaux, donc les poissons, les hérons et les loutres, captent comment profiter de cette ressource, pour finalement, petit à petit, on arrive à une forme de régulation ou d'intégration de l'écrevisse dans la chaîne alimentaire. La loutre, c'est une espèce qui investit beaucoup d'énergie dans ses petits. Les scientifiques parlent de stratégie K, stratégie R, mes stratégies pionnières où finalement les espèces mettent beaucoup d'énergie dans le nombre mais très peu dans la qualité de l'élevage. Chats, souris, oui, lapins, amphibiens. Et puis ensuite, il y a des bestioles qui vont mettre beaucoup d'investissements, qui vont élever longtemps leurs petits, qui vont leur apporter du soin, qui vont prendre du temps, typiquement l'espèce humaine, hein, la baleine. La loutre est celle-là, je disais tout à l'heure. Les loutrons, ils laissent tout nu, ça ressemble pas mal à des petits chats, c'est tout moche, enfin, c'est sans poils, voilà. Et ça met 2 mois à être suffisamment aguerri pour pouvoir faire les premières sorties dans l'eau, etc. Et ensuite, l'élevage, apprendre à pêcher, etc., ça va les emmener jusqu'à 7, 8, 9 mois, quoi. Là, il est possible que, au moment où les parents ou la mère chassent la portée, les jeunes, que les frères et sœurs continuent un bout de chemin ensemble, puissent constituer une année de transition, une petite tribu, quoi. C'est possible. Mais là encore, c'est à mesurer, parce que vous voyez, la loutre, elle est plastique dans son alimentation, mais aussi dans son comportement. Et en fait, il existe des loutres beaucoup plus grégaires. C'est la même espèce que celle qu'on a là, notamment en Écosse, où il y a des colonies de loutres qui vont chasser en mer. Pour le coup, ce qui va conditionner leur comportement, leur mode de vie, c'est la mise à l'eau, c'est les marées. Comme c'est sur des zones avec beaucoup de falaises, etc., y a beaucoup de nourriture, mais il y a peu d'espace de mise à l'eau propice. Donc ça peut les inviter à une certaine tolérance.
Est-ce que la femelle a moins besoin de territoire? Et est-ce que c'est parce qu'elle s'occupe des petits? Et comment est-ce que le mâle participe aussi à l'éducation des petits?
Alors la réponse, pas du tout. Voire même, il va être capable de s'en prendre à des jeunes quand ils commencent à être matures, etc. Ses propres enfants. Alors ça, c'est un jugement de valeur, hein, moi j'ai dit.
Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de territoire?
Il y a une différence de taille entre le mâle et la femelle. En moyenne, une femelle, c'est entre 5 et 7 kilos, un mâle entre 8 et 10. Donc, plus gros moteur, besoin de plus d'énergie. Et puis ensuite, il faut relativiser aussi les éléments que je vous donne qui sont en train de s'affiner. Aujourd'hui, avec du matériel technologique, de balises, etc., de puces, on arrive à avoir des idées des déplacements et des territoires beaucoup plus fins. Vraiment, le Marais Poitevin a fait figure de zone test à l'échelle mondiale. C'est parmi les endroits où on a équipé de balises à triangulation, hein, c'est les années 80, des balises qui émettent un signal sur un gros harnais et où il faut être à quelques centaines de mètres et en fonction de la vitesse du signal, on avait une direction, quoi. Et en faisant de la triangulation, on avait des positions. À la fois, c'est pas la précision d'un GPS, etc. Puis à la fois, le fait d'être à quelques centaines de mètres, dans quelle mesure on n'impacte pas, dans quelle mesure elle nous sent pas. Il faut se rendre compte, il y a des scientifiques qui ont fait ça pendant des nuits et des nuits et des nuits. René Rozou, qui est le spécialiste de la loutre en France, avec son collègue Tournebise, ils ont suivi une femelle pendant 250 nuits, non-stop. Les chiffres que je donne, c'est les fruits de ces travaux en triangulation, plus ou moins corroborés par les nouvelles méthodes.
Ça peut permettre aux populations de loutres de croître à nouveau.
L'arrêt de la destruction directe, pour commencer. Il a suffi d'arrêter ça pour que des rivières où elle était menacée se recolonisent. Il faut des populations, des noyaux, d'où ça peut régénérer. Le Marais Poitevin en est un, le Massif Central en est un autre. Du Massif Central, aujourd'hui, il y a la connexion avec les populations qui étaient plutôt en Suisse. Là, c'est en train de se retrouver, de se mixer. Ce qui va faire une plus grande densité de loutres, c'est une plus grande densité de nourriture. Ça veut dire travailler sur la qualité de l'eau, évidemment.
Comment une loutre arrive dans une rivière dans laquelle il n'y a pas de loutre?
Alors, le plus simple, c'est quand il y a continuité hydraulique, donc des reconquêtes par bassin, en amont, en aval. Et il y a bien un moment où il va falloir qu'il y ait des loutres pionnières et qui franchissent la ligne de partage des eaux. Je sais qu'en montagne, il y a des camarades qui pistent la loutre en hiver dans la neige. Et là, on s'aperçoit qu'elle est capable de ce genre de mouvement. De la même manière, dans les préconisations qu'on a données vis-à-vis du camping, on a dit pas de tente à moins de 5 mètres. Parce qu'en réalité, une loutre, ça s'éloigne très rarement de l'eau de 5 mètres. Notamment pour qu'en cas de danger, elle puisse très rapidement retrouver le milieu aquatique où là, elle est reine, quoi. S'il y a de la ressource alimentaire, parce que elle entend au loin un chorus de batraciens, une mare dans la forêt où ça chante à fond, là elle va tout à fait être capable de sortir de l'eau pour aller faire un carnage dans le... Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avec ce que je viens de faire là, on se répartisse dans la parcelle à côté, jusqu'à la haie, et que vous soyez en prospection. Est-ce que ça vous va comme exercice ? Allons-y. Et en fait, depuis tout à l'heure qu'on parle, bah on est juste à côté des pots d'épreinte, hein. Juste là. Mais si vous humez un petit peu, il y a un truc dans l'air. En fait, c'est pas la crotte de loutre, mais c'est une odeur qui ressemble pas mal à la crotte de loutre quand même. Je pense que c'est essentiellement dû à des déchets de tonte et qu'il faut un petit lisier, etc. Mais l'odeur de la crotte de loutre, c'est un petit peu ça. Un peu, c'est une odeur mélangée de poisson, forcément, ou de crustacés, et de miel. Elle ne mange pas de miel. Hein. C'est ses glandes, son musc, qui donne cette odeur-là. C'est une odeur plutôt agréable. Bougez pas, je vais voir.
Mais du coup, observez-moi en train de chercher. C'est ça qu'il faut vous...
Quand je cherche de la crotte de loutre, je cherche toujours l'endroit où la déclivité de la pente est la plus douce. La loutre, c'est pas un singe. Quand il y a besoin, elle peut, hein. Mais si elle a le choix, elle va toujours choisir la pente la plus douce.
Un des trucs que je fais régulièrement, sur des zones où il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de site de marquage qui ressort plus que les autres, bah, j'attrape un caillou et puis je le mets sur ce qui me semble être le bout du chemin et sur le point le plus haut. Autant la loutre est discrète, autant elle n'est vraiment pas discrète. Pour ce qui est de son marquage. Et le simple fait de mettre un caillou peut lui donner envie d'aller poser dessus. J'ai fait l'expérience le mois dernier à un caillou qui est là-bas que je vous montrerai. Deux jours après, elle avait fait sa crotte dessus. Donc je parle pas avec la loutre, mais on se fait des petits cadeaux quand même. Là, une cascade comme ça, elle est capable de la franchir. Il y a un petit chemin sur le bord où elle n'a pas besoin de se lancer dessous. Et pareil, elle va prendre le chemin avec le moindre de difficultés. Bah pour le coup, vous allez devoir m'attendre ici parce que je vais aller voir de l'autre côté. Je fais la suite de l'autre côté.
Toujours au cœur de cette chasse à la crotte de loutre avec Julien Leguet de Bassine Non Merci qui traverse le petit cours d'eau de l'Argentière.
Ce passage-là, donc, il y a encore une zone de moindre déclivité. Il n'y a pas de marquage récent ici. Il y en avait un quasiment là le mois dernier. Elle n'est pas repassée, en tout cas, elle n'a pas marqué de but. Vous voyez un petit peu la conformation du terrain. C'est vraiment, il faut être dans cette attitude-là, chercher le passage où ça passe le mieux. Un petit peu comme l'eau, quoi.
Soudain, Julien Leguet se dresse triomphalement. L'éco-terroriste vient de trouver une crotte de loutre à saboter.
C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment pour ça qu'on a pensé le campement, de se dire comment on peut coexister à plusieurs milliers et comment elle va le prendre. Et ça, c'est une épreinte de la nuit. Derrière le chapiteau loutre. Bon, après, on a fait des incantations. Hein. Vous avez vu, il y a quand même une statuette. Enfin, voilà. Et puis, on a fait des autocollants. Et...
et là, c'est l'horreur. D'un air à la fois gourmand, satisfait et circonspect, l'éco-terroriste se met à renifler la crotte presque goulûment. Précisons que dans ce groupe de fidèles se trouvent des enfants que leurs parents ont traînés là pour les obliger à regarder un adulte en train de se repaître d'odeurs. Enfants dont nous avons bien évidemment transmis les profils aux services sociaux.
En tartare, comme ça, des fois, je me demanderais presque. En tartare, comme ça, des fois, je me demanderais presque.
Vous avez bien entendu, le gourou suggère ici à ses adeptes qu'on pourrait envisager de manger de la crotte de loutre. La rumeur rapporte aussi que l'épreinte de loutre ayant des propriétés hallucinogènes, des éco-terroristes la font sécher pour la fumer dans des pipes à crotte avant d'aller semer le chaos dans la société.
Je vais vous la faire passer. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez la sentir. Là, la couleur, à votre avis, elle a mangé écrevisse.
L'horreur culmine. Dans une sorte de rituel pagano-barbare, Julien Leguet fait passer la crotte de loutre à ses adeptes pour faire sentir la chose. Des enfants traumatisés rigolent. Nous prouvons ici par A plus B que fréquenter des éco-terroristes, c'est se mettre le nez dans la m***e.
C'est pas le même sourire. Hein.
Ça sent comment ?
Des crustacés un peu. Les fruits de mer.
Tu aimes bien les fruits de mer. Dans des zones de rivière où la berge c'est du sable et où il n'y a pas de promontoire naturel, elle va être capable de se faire un monticule pour aller faire sa crotte dessus. J'ai dit tout à l'heure que la crotte elle avait vocation à marquer le territoire. Elle ne fait pas sa grosse commission au même endroit. Elle va plutôt avoir tendance à parsemer. J'avais lu comme ça là encore un beau métier, compteur de crottes de loutre, une cinquantaine d'épreintes par nuit. Épreinte, ça signifie ça, c'est expulsé par petit tas. Et alors j'ai une astuce à vous donner pour que vous puissiez, sans avoir une expertise, pour savoir rapidement si vous êtes sur des rivières à loutre ou pas. Il y a des endroits où les marquages vont être plus pérennes qu'à d'autres, sous les ponts. Dans le Marais Poitevin, tous les ponts où la loutre est présente, c'est marqué systématiquement. Pourquoi est-ce qu'on trouve les crottes plus facilement sous les ponts ? C'est un abri qui fait que le marquage il dure plus longtemps. Bah, comme elle sait qu'il est plus pérenne, elle va marquer vraiment de manière privilégiée. Donc dès que vous avez un pont avec un petit talus, une petite sortie, vous pouvez m'inviter chez vous, hein, je viendrai. Et puis j'irai faire une balade et rapidement je pourrai vous donner un premier diagnostic en prospectant les ponts. La loutre est quand même sur une très belle reconquête aujourd'hui. Même la l'Oise, le Nord-Pas-de-Calais, etc., où il y a eu des rivières qui ont été très maltraitées, l'agro-industrie, l'industrie minière, elle revient. Non, non, ça vaut vraiment le coup maintenant de reprospecter toutes les rivières de France. Ouais.
Et du coup, les chiens, c'est méchant
C'est pas méchant. Là, ça chasse. Ça dérange. Et autant je pense qu'un chien, face à une loutre adulte, la loutre, elle va se défendre, mais bien. Un loutron, c'est toujours délicat, quoi.
Donc ça veut dire que quand on se balade avec le chien...
Ouais, de manière générale, moi je préconise que quand on se balade au bord de l'eau, ouais, la laisse, c'est bien, ouais. Parce que si c'est pas la loutre, c'est la poule d'eau, c'est le canard, c'est... Ouais. Alors, l'épreinte d'une loutre, ce qui permet de la reconnaître, c'est qu'elle a pas de forme prédestinée. C'est pas une crotte moulée, c'est pas le bel étron, voilà, je vais m'arrêter là, hein, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est vraiment un petit tas. Et vraiment, ce qui va permettre de reconnaître, c'est le type de dépôt, l'endroit où ça dépose, donc toujours en hauteur, et puis cette odeur, hein, caractéristique de l'espèce. Il pourrait y avoir des confusions, je pense notamment avec le putois. Le putois européen, il est capable de se nourrir en milieu aquatique, et il est capable, de, comme tous les mustélidés, de marquer son territoire en faisant des crottes. C'est vraiment l'odeur qui va être l'élément de distinction. Je vous ai dit que c'était qu'elle était fraîche de la nuit.
Oui.
Et on voit, vous avez vu les morceaux dedans.
Oui. Elle est assez humide.
Non, complètement.
Où est-ce que vous, tu vois les morceaux dedans?
Ces morceaux de carapace.
Ouais.
Ah ouais, mais pas. Ah ouais.
Je vais la laisser au stand et puis qu'on serait curieux, vous verrez l'évolution en fonction du séchage. Quand elle est encore visiblement humide, elle a moins de 24 heures. Quand elle est toute fraîche, c'est fait comme une espèce de mucus. On ne distingue pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis au bout de quelques heures, puis ça dépend aussi de l'humidité, bien sûr, ben, elle prend cette forme-là et elle va virer vers un gris, puis un blanc. Quand c'est vraiment sec et que c'est resté à l'abri, ben, y a plus que le calcaire de l'écrevisse, quoi, de la carapace, et ça vire vers le blanc. C'est orange quand ça mange des écrevisses, du noir quand c'est du poisson. Tu prends une binoculaire et puis tu identifies les ossements. Voilà.
Le gourou Leguet a donc converti un groupe d'innocents en adeptes du culte de la loutre. Les malheureux se mettent donc à chercher des crottes de leur nouvelle idole. Mais pour asseoir son pouvoir sur ces naïfs, le diabolique Leguet a préparé une supercherie sous forme d'une licorne gonflable en plastique rose qui trône dans l'herbe. Les membres de la secte sont désormais prêts à croire à l'existence d'animaux qui n'existent pas.
Déjà, je ne sais pas si parmi vous, il y en avait qui avaient déjà eu la chance de voir des licornes nichées. Des licornes. Vous voyez là, la touffe d'iris, c'est vraiment l'écosystème de la licorne. Et c'est un écosystème de plus en plus rare, d'où la rareté des licornes, hein, vous en doutez. Et c'est pas n'importe quelle licorne, ce sont des licornes migratrices en provenance de la région parisienne. Elles ont précédé Oudéa Castéra et Hidalgo dans leur baignade dans la Seine. On a fait une action conférence de presse et happening la semaine dernière pour refaire la promotion du village de l'eau, l'office de tourisme mélois. Et donc on a plongé à quatre dans la Seine, avant tous les pontes, là, en face de Bercy, avec nos bouées licornes et nos gilets de sauvetage, nos bassaranes. Et on a déplié une banderole, l'eau est un bien commun, partageons-la. Et elles étaient de l'aventure. Voilà, ça me paraissait important de vous les présenter quand même. Hein.
Donc en fait,
oui.
Il n'y a pas que dans les dessins animés qu'il y a des licornes finalement.
Mais non. C'est encore plus rare que la loutre, encore plus dur, alors que pourtant c'est visible. Est-ce que vous avez idée de ce que symbolisent ces fanions bleus? Qu'est-ce qu'on a voulu symboliser à travers ça, à votre avis? Le méandrage rêvé de la rivière. En fait, l'Argentière, comme beaucoup de nos rivières, elle a été complètement domestiquée, modifiée. Une rivière, c'est pas droit. Hein. Ça, c'est un canal. C'est vraiment dans des conditions très rares qu'une rivière va tailler au droit. C'est vraiment en fonction de la résistance de la roche et puis du relief. Non, l'Argentière était un vrai ruisseau tortueux. Et c'est vrai qu'au sein des naturalistes des terres, naturalistes mélois, etc., ces questions de renaturer les rivières, ça nous habite beaucoup. Il y a toute une école aujourd'hui de l'écologie, de l'hydrologie régénérative. Et c'est vraiment ça l'alternative aux bassines, en fait. On est d'accord qu'il faut que l'eau reste le plus longtemps sur nos territoires, mais pas en bâche, pas soumis à l'évaporation, pas soumis au pourrissement, aux cyanobactéries, etc. Donc, une des manières qui fait que l'eau s'infiltre mieux, reste mieux dans les sols, etc., c'est de reméandrer les rivières. De refaire des fonds de rivière. Là, chez nous, de plus en plus, on réempierre pour obliger l'eau à parcourir plus de distance. Voilà. Et donc, c'est une installation, aujourd'hui symbolique, mais on espère vraiment qu'avec la mairie, vous avez compris qu'on s'entend très bien, il y a vraiment des rapports de confiance et qu'un jour, ce méandrage fasse l'objet, pourquoi pas, d'un chantier collectif. C'est dans le champ des possibles. Travaux pratiques.
Allez, on se prépare.
Considérez qu'à partir de maintenant, vous êtes en exercice de recherche d'empreintes. C'est vraiment de trouver l'endroit où la pente est moindre. Parfois, il arrive qu'on trouve des espaces où l'herbe est couchée comme ça.
Oui.
Parce que la loutre, elle peut manger ses proies à l'extérieur et elle va s'en mettre partout, les mucus, elle va venir se ressuyer. Des fois, on trouve comme ça des espaces enherbés avec du mucus, des écailles, et si on regarde plus finement, ben des poils de loutre.
D'accord.
Vous connaissez le jeu maintenant, vous pouvez le faire le long de l'Argentière, en amont, en aval. L'Argentière, elle remonte jusqu'à 1 km, jusqu'à un super beau petit lavoir. Si parmi vous, il y en a qui font l'exercice, n'hésitez pas, si vous avez un doute, à prendre une photo. Je serai capable, sur photo, à vous dire ce que j'en pense. Ce que j'ai fait tout à l'heure, de le toucher, de le faire sentir, je le fais exceptionnellement dans ce cadre-là. On préconise plutôt de ne pas le faire quand c'est au quotidien, parce qu'on laisse aussi notre marque. c'est un dérangement potentiel. Après, je vous ai dit, à l'inverse, des fois je mets un caillou, deux jours après, elle y va. Est-ce que j'en ai pas sur mes mains d'autres individus qui vont faire que ça favorise ? La bouscarle de Séti vous salue bien. Elle dit, bon, c'est fini quand ce festival ? Et ça aussi, c'est un petit plaisir, parce que la bouscarle, ça fait partie des espèces emblématiques qu'on a tout de suite repérées. C'est une petite fauvette qui vit dans les milieux aquatiques, les ronciers, les soleils, les espaces de saule, etc. Elle a déjà réussi à faire une première nichée depuis qu'on est là. Et le mâle est encore là, il continue à chanter malgré nous. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les petites mesures qu'on a mises en œuvre portent leurs fruits. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous le dis quand même, vous auriez pu trouver une épreinte dès le début de l'exercice. Si vous croisez de nouvelles épreintes, ben faites-moi signe. Parce que là, le statut en amont, on ne le connaît pas. On n'a pas prospecté la partie amont. Et puis au bout de ce petit truc, il y a un très beau petit lavoir, il y a une belle balade. Tiens, puisque j'en suis à l'office de tourisme de Mel, il y a plein de choses à faire dans Mel. Dans Mel, il y a une biennale d'art contemporain. Tous les monuments, et Dieu sait qu'il y a des monuments à Mel, qui est un haut fief de l'art roman. Il y a des églises extraordinaires. Il y a un riche patrimoine architectural. Et là, il est mis en valeur à travers l'exposition de tout un tas d'œuvres, dont des œuvres qui font directement lien à notre lutte. Notamment, il y a la fresque du convoi de l'eau qui est exposée dans le cadre de la biennale à côté des Halles. Il y a des photos de camarades en action en train de faire un barrage à castor, des naturalistes des terres. Enfin, il y a plein de clins d'œil et la thématique qui s'appelle « Nous merveillons ». Le commissaire avait vraiment cette envie de raconter quelque chose avec ce qu'on vit, nous. Mais elle est très riche culturellement et en programmation. Jeudi, vendredi, samedi, il y a le boulevard du jazz, super festival de jazz gratuit. Donc si les 10 000, c'est trop à un moment, ben là-bas, il y a une plus petite soirée à 500 000 personnes avec une bonne partie de camarades. Ben, merci à vous.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin notre épouvantable immersion au camp d'entraînement écolo-gauchiste du prétendu village de l'eau. Sabotage, culte païen d'animaux inutiles, reniflage de crottes impliquant des enfants. Même si on le savait déjà, démonstration est ici encore faite. Les écoterroristes sont dangereux. À notre avis, il faudra enfermer les moins pires dans des Guantanamo de rééducation où on les ferait pédaler sur des vélos d'appartement pour produire de l'énergie verte et transformer les plus irréductibles en compost. Parce que nous, on aime vraiment la nature. Vous pouvez réécouter cette épouvantable enquête sur notre site polymixetlavoixoff.com. Avant de bientôt retrouver ce programme sur les médias de Bolloré, parce que ça commence à bien faire les radios soi-disant libres qui racontent n'importe quoi. Ah oui, alors j'avais oublié de vous dire, la semaine prochaine, on fait un reportage sur les sous-vêtements de ma mère, les sous-loups, enfin un truc comme ça, quoi. Alors vous allez voir, ceux-là, ils sont pas mal non plus, hein. Alors je dis « ils ». Alors, des fois, on sait pas trop si c'est des hommes ou des femmes, là, avec tous leurs trucs wokistes. Vu que pendant les manifestations, bah, y a des mecs qui restent à la base à éplucher des patates en cuisine. Et pendant ce temps-là, il y a des gonzesses qui vont en manif pour discuter avec la police. Bon, alors là, on sait plus à qui on a affaire avec leurs conneries de déconstruction, là. Voilà le résultat de l'enseignement de leur théorie du genre.